En tout cas, c'est réjouissant de tous ces témoignages. Hein. C'est vraiment Dieu agit et Dieu est toujours vivant et guéri comme il y a 2000 ans quand il marchait en Galilée et il agit dans nos vies. C'est vraiment réjouissant de voir. Je pense qu'on pourrait encore témoigner longtemps tellement. Voilà, ça édifie notre foi. Alors venez à l'église, hein, si vous voulez édifier votre foi. Venez entendre ce que Dieu fait. Ce matin, déjà, je voulais vous donner deux, trois nouvelles quand même. Parce que Cynthia et moi, vous nous avez peut-être pas beaucoup vus en février. Nous étions en Suisse. Il s'est passé pas mal de choses. Vous savez qu'on est étudiants donc à Vaux-sur-Seine et on va terminer fin juin. Il y aura les grands examens pour moi de fin de quatrième année. Et Cynthia, ça va, elle a pas pris trop d'examens. Elle est là un peu plus en temps sabbatique, là que le grec et l'hébreu, je crois. Et c'est vrai que c'est une année aussi, enfin charnière, parce qu'on réfléchissait pour la suite. Et aujourd'hui, c'est une grande date parce que on a eu des contacts avec une église. Le conseil a voté pour nous. Et aujourd'hui, ça passe en assemblée générale pour un engagement pastoral dans une église à Lausanne. Ah voilà. Donc j'ai pas le résultat encore. Moi aussi, je regarde mon téléphone portable assez régulièrement. C'est un outil très précieux aussi dans ces moments-là. Donc voilà. Donc les choses devraient se concrétiser normalement. Voilà, mais on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Et si tout va bien, si Dieu le veut, début août, on commencerait dans un poste pastoral en Suisse. Voilà. Merci Seigneur. Donc voilà, on est encore là pour un petit moment, donc on profite un maximum encore de la France, des bons plats français, de tout ça, et de vous aussi, de ces derniers cours. Parce que quand on travaille, c'est aussi autre chose qu'étudier. Et c'est vrai que voilà, c'est encore un temps à part. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est un texte très connu. Mais vous savez, quand on lit la Bible, il y a des fois des choses archi connues. Dieu nous parle et on dit, mais je connaissais ce texte. Et ce texte nous parle de manière nouvelle. C'est comme si, comme l'Écriture dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, et Dieu est vivant. C'est pas une religion. Et ce matin, on va parler d'une parabole que vous connaissez bien, qui est la parabole du fils prodigue, comme on l'appelle, en Luc chapitre 15. J'ai vraiment été touché par cette parabole. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et je vais vous montrer ce matin les richesses de cette parabole encore. On va la lire, elle est un peu longue, mais je pense que c'est bien qu'on la lise pour se remettre dans le texte. Luc chapitre 15, l'évangile de Luc au verset 11. Donc Jésus parle, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans tout ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs faire paître les pourceaux, les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien, avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. L'Évangile présente Dieu comme notre Père. C'est vrai, Jésus nous invite même à prier Dieu, notre Père qui es aux cieux. Et c'est vrai que devenir chrétien, c'est aussi trouver en Dieu son Père, dans le sens le plus profond et le plus intime. Et l'esprit qui vient habiter le croyant, c'est un esprit de filialité, c'est un esprit qui crie en nous « Abba Père ». Et ma question ce matin, c'est comment on vit notre relation à notre Père céleste ? Parce que c'est bien de ça que cette parabole parle, c'est de la relation qu'on a avec notre Père. Est-ce qu'on est marqué par notre expérience personnelle ? On a tous eu des parents terrestres qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, de ce qu'on a vécu. On est marqué des fois en bien, on est marqué en mal. Et c'est vrai qu'on peut des fois projeter l'image d'un Père terrestre qui est pas forcément bonne sur notre Père céleste. Mais cette parabole, là, nous amène à découvrir les aspects essentiels du Père céleste. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que vous projetiez pas sur ce Père, de cette parabole, ce que vous avez vécu, mais de vous laisser vraiment imprégner par l'Écriture et comment elle nous découvre, comment est ce Père céleste au travers de ce Père de ces deux personnes dans cette parabole. Et découvrir cet amour du Père et la relation qu'on a avec lui. Juste avant de continuer dans cette parabole, j'aimerais juste dire deux, trois choses sur cette parabole. Souvent, on l'appelle la parabole du fils prodigue. C'est vrai, c'est ce qu'on entend toujours. Mais j'aimerais dire que c'est peut-être faux de l'appeler comme ça. Parce que déjà, il y a deux fils dans cette parabole. Alors, on va pas mettre l'accent que sur un. On oublie souvent le second fils, qui est le fils aîné. Il y a un fils cadet qui part de la maison, puis il y a le fils aîné qui est à la maison. Alors, on pourrait l'appeler la parabole des deux fils ou la parabole du père et de ses deux fils. Car il y a trois acteurs dans cette parabole, dont le père est le pivot dans le récit, on verra. Et cette parabole vient à la suite de deux autres paraboles dans le chapitre 15, qui est la parabole de la brebis perdue qu'on connaît. Il laisse 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Et la parabole ensuite, juste après, de la drachme perdue. La drachme, c'est la monnaie de l'époque, qui veut dire, c'est l'argent. On pourrait dire la parabole de la pièce perdue. C'est une femme qui perd une pièce dans la maison. Et voilà, elle doit la chercher, elle la retrouve. Et au début de ce chapitre 15, il y a un contexte à ces trois paraboles qui sont données, qui est Jésus se trouve au milieu de pêcheurs et au verset 15, il est dit, au chapitre 15, verset 1, au tout début, il est dit « Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci, donc Jésus, accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Donc ça, c'est le contexte dans lequel Jésus a donné ces paraboles. Et c'est très intéressant de voir comment Jésus répond en fait à cette situation, parce que les scribes et les pharisiens, c'était les religieux de l'époque, et les pêcheurs venaient vers Jésus, ils disaient « Mais on peut pas être en contact avec les pêcheurs quand on est, j'allais dire un bon chrétien, mais c'est pas des chrétiens, c'était un bon religieux juif. » Voilà. Et voilà, ça choquait ces gens-là. Et Jésus répond par trois paraboles. Et ce trio d'enseignements est une réponse à ces religieux, qui reproche à Jésus de passer du temps en compagnie de ces personnes de mauvaise vie, si on peut dire. Trois fois, au travers de ces trois paraboles, Jésus oppose la grâce de l'Évangile et la propre justice des pharisiens. Et dans la première parabole, on peut être perdu hors de la maison. C'est la parabole de la brebis qui est loin, qui est pas dans la bergerie, que Jésus va chercher. Dans la deuxième parabole, on peut être perdu dans la maison. La brebis, la drachme, la pièce de monnaie est perdue dans la maison. Elle doit la rechercher. Et dans la troisième parabole qu'on va voir maintenant, il y a deux fils. Il y en a un qui est perdu hors de la maison, qui est le fils prodigue, qui s'en va. Et il y a un autre qui est perdu dans la maison, qui est le fils aîné. Et on verra les rapports qu'il a avec son père. On voit que ce fils est perdu aussi. Donc c'est très intéressant de voir comment Luc a bâti ce chapitre. Et ici, le fils prodigue ou cadet, dans cette parabole, représente les Israélites pécheurs que Jésus accueille vers lui. Et le fils aîné, celui qui est religieux, représente ces religieux puisqu'il n'accepte pas, il est en colère, que Jésus accueille ce fils prodigue dans cette parabole. Mais on va commencer directement à suivre un petit peu ce qui est dit dans l'histoire du fils prodigue. On va suivre le chemin de ces deux fils et comprendre les chemins qui les amènent à une rupture avec leur père. Et on va se laisser interpeller par ces deux fils et qui nous ressemblent tellement en fait, même si ça a été dit dans ce contexte-là, ils nous ressemblent tellement. On va se laisser interpeller aussi par l'exemple du père, comment le père réagit avec ses deux fils de manière différente et comment il les aime toujours dans les deux cas. Et une question va vraiment nous interpeller, nous aussi, dans notre relation à notre Père Céleste. Est-ce que ton Père est vraiment ton Père? Et c'est une question qu'on essaiera d'y répondre aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser d'ailleurs d'abord au premier fils, qu'on appelle le fils prodigue. Dès le début de la parabole, le fils l'appelle mon Père, il lui dit mon Père, et il lui dit « Donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Alors, quelle est l'idée derrière? Ben, juste l'idée qu'un père, c'est quelqu'un qui pourvoit à des besoins et qu'on peut en profiter, finalement. Alors, il faut pas réduire l'idée d'un père juste à quelqu'un qui donne des biens, bien sûr, qui produit, qui nous donne ce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, il faut pas qu'on ait cette image aussi de Dieu, juste quelqu'un qui donne des biens. On peut avoir cette tendance aussi en tant que chrétien de se dire notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça peut être une relation qu'on a à notre Père céleste. Et nos prières souvent sont peut-être trop souvent des demandes plutôt que des déclarations d'amour. Ayons ça à l'esprit. Et je pense que ce fils cadet avait cette image au départ de son père. Alors une fois qu'il a pris sa part d'héritage, il est parti, il a commencé à dilapider sa fortune. Et une famine a commencé à arriver, comme le dit le texte, qui le livre à la misère, et il a tout perdu, enfin il a tout dépensé très rapidement, et il a été réduit à garder des cochons, qui est quand même, dans la mentalité juive, assez difficile. Hein. C'est une impureté de toucher le porc, de garder des cochons, c'est très mal vu. Donc socialement, c'était très bas où il était arrivé. Et ce jeune homme qui a voulu rompre quelque part avec son père, il voulait être son propre maître, suivre les désirs de son cœur et vivre sans limite. Il a voulu ni Dieu ni maître quelque part, et le voilà finalement comme un esclave, convoitant la nourriture d'animaux impurs. Sa vie finalement qui était axée sur les plaisirs, la dépense de son argent. Pas d'état d'âme, pas d'interrogation même sur le sens des choses. Il vivait la vie à 100 à l'heure. Il vivait dans la superficialité. La superficialité comme le monde la donne, en fait, finalement. Et vous savez, les choses du monde et même la vie de ce monde est très superficielle. Hein, pas beaucoup de profondeur. Et voilà que ce jeune homme, finalement, il réalise, peut-être pour la première fois de sa vie, qu'il n'a jamais vraiment pris le sens de réfléchir sur ce qu'il faisait et le sens de sa vie. Et le texte dit qu'il est rentré en lui-même, ça veut dire qu'il a commencé quelque part à faire ce chemin intérieur, à réfléchir peut-être un peu plus en profondeur sur la manière dont il s'est conduit. Peut-être pour la première fois. Et vous savez, souvent, la souffrance produit cela. C'est souvent parce qu'on souffre qu'on revient à la maison du Père. Parce que si on réfléchit bien, le péché amène l'esclavage, amène la souffrance et produit la mort. Le péché n'apporte que cela. Et dans ce voyage intérieur que le fils cadet a commencé à vivre, il a vu ce qu'il a perdu. Il a commencé à dire, mais chez mon père, il y avait au moins de quoi manger. Il y avait de quoi vivre. Même les employés, je vivrais mieux si j'étais simplement employé chez lui. Ça commence à le faire réfléchir. Il a commencé Et des fois, vous savez, la souffrance nous amène à comprendre un peu cette notion de manque, de cette superficialité qu'on avait avant, et de chercher vraiment un sens à notre existence. Il y a un très beau texte que Jésus dit dans les Béatitudes. Il dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Alors, faut pas être pauvre, hein. Je vous encourage pas à devenir pauvre, mais heureux parce qu'on réalise qu'on est pauvre, qu'il nous manque quelque chose, que quelque part on a cette humilité de se dire, mais et ça le monde le fait pas. Hein. Il faut assurer dans le monde, hein. Il faut cette superficialité. On va jamais dire que on notre tristesse, partager nos choses, ou même des fois de dire voilà, je sens peut-être qu'il me manque quelque chose dans ma vie. On va jamais le dire ça. Et ça, c'est vraiment un travail que fait le fils cadet sur lui-même. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Cette souffrance, ça produit la repentance, finalement. Regardez ce qu'il dit. Il fait une vraie confession. Il dit, je vais partir, aller chez mon père et lui parler. Et d'ailleurs, il ne dit pas chez moi, mais chez mon père. Il a compris qu'il était en rupture avec son père. La repentance n'est pas une démarche où il faut faire ceci ou cela, mais c'est un vrai retour à Dieu. C'est ça, la repentance. Très souvent, on se dit, ah, il faut que j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Mais vous savez qu'en hébreu, le mot repentance n'existe pas. C'est le mot shuv qui est utilisé pour repentance, qui veut dire retour. C'est retour à Dieu. Parce qu'il y a une rupture et on revient à lui. Donc, la repentance, c'est plus que juste, ah, je vais arrêter de faire ci, ça. Bien sûr, ça comprend ça. Mais c'est d'abord, premièrement, un mouvement de cœur vers notre Père céleste. Il faut faire un chemin de retour. Et regardez la confession du fils, mais elle est exemplaire. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il dit, je vais dire ça à mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Toute faute est d'abord une offense envers Dieu. La rupture du jeune homme a d'abord, il a compris que le problème fondamental qu'il a amené dans ça, c'est pas qu'il aurait dû être un meilleur gestionnaire de son argent, de son héritage. Il a compris que la cause première qui l'a amené dans cette situation, c'est d'avoir été en rupture avec son père. Et cette séparation fondamentale entraîne quelque part tous les autres péchés, si on peut dire. Et c'est ça, quelque part, pourquoi il faut... La repentance profonde, c'est de comprendre qu'on a péché contre Dieu. C'est ça la repentance la plus... Je pense qu'on doit comprendre aussi. Il n'y a pas de grâce aussi sans reconnaissance du péché. Il n'y a pas de pardon si on... D'ailleurs, on dit souvent aux gens, on veut leur annoncer qu'ils sont perdus. On veut leur dire déjà, il y a une bonne nouvelle. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. On évangélise comme ça. Mais j'aimerais vous dire, les gens disent, mais une bonne nouvelle. Mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? Pourquoi une bonne nouvelle? Et les gens, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont pécheurs. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont en rupture avec Dieu. Il faut déjà commencer par ça. Et regardez, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes salariés. C'est incroyable. Ce jeune homme a commencé à entamer son voyage en réclamant un héritage. Et maintenant, il dit, non, je veux même être ton fils. Je ne demande pas. Il ne demande plus rien. Il ne lui reste aucune dignité, aucun mérite, aucun droit. Ses privilèges de fils sont perdus. Il l'a réalisé. Rien ne lui donne droit de les retrouver. Donc, il est vraiment dans une attitude de profonde repentance, si on réfléchit bien, ce fils cadet. Alors, il retourne vers la maison. Il retourne vers son père. On va découvrir ensemble maintenant la réaction du père envers ce fils. Le père apparaît ici vraiment comme il dit, il aperçut son fils de loin. Je pense qu'il l'attendait, ce père. Il scrutait l'horizon. Pendant les longues années d'absence, il était en attente de ce fils. C'est vrai qu'il l'avait perdu de vue, mais il ne l'avait jamais perdu dans son cœur. Et c'est vrai que quand on s'éloigne de Dieu, quand on erre loin de lui, ben Dieu, il espère toujours en nous. Il nous attend toujours. Il guette toujours notre retour. Et il nous aime toujours. Et quand on regarde ce père, c'est quand même, il court vers son fils et se jette dans ses bras. Alors, il faut s'imaginer à l'époque aussi que c'était un geste c'était pas dans les normes sociales. un père, enfin les aînés envers les plus jeunes devaient se tenir assez dignement. Et aussi pour courir à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas des jeans, hein, on avait des toges ou des sortes de grandes vestes qu'on d'ailleurs on mettait une ceinture à la taille pour pouvoir justement pas que ça nous dérange quand on court. Et sans doute qu'il a dû lever sa robe, hein, pour courir vers son fils. Et c'était quand même quelque chose de pas bien vu à l'époque. Et quelque part, ça montre aussi ce père, le cœur de ce père, l'amour qu'il a pour son fils va au-delà des conventions sociales. C'est un amour déraisonnable si on réfléchit bien. Et si on réfléchit à l'amour de Dieu pour l'humanité, on se dit c'est déraisonnable. Parce que c'est quand même nous, quand même quelque part, au départ, qui avons péché. Et c'est lui qui fait toute l'œuvre où il vient mourir sur une croix pour nous. Il y a quand même quelque chose d'incroyable derrière cet amour-là. C'est pas normal. C'est lui qui, il y a quelque chose de profondément profond dans cet amour et qui sort des conventions du raisonnable. Alors le père, il court embrasser son fils. Et avant même que celui-ci ait ouvert la bouche pour demander pardon, enfin, il commence sa confession, on va dire, mais il l'arrête. Regardez ce qu'il lui dit. Au verset 21, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ce qu'il avait dit avant, qu'il lui dirait. Puis normalement, il avait dit, « Traite-moi comme l'un de tes salariés. » Et puis il a même pas le temps de finir. Au verset 22, il dit, « Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et mettez-la lui. » Il laisse même pas finir sa confession. Il n'est pas en train de dire, « Ah, tu reviens. C'est toi qui es parti, hein, vous voyez, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas une attitude de nuance, des conditions qu'il commence à mettre. Alors vraiment, doutons jamais de l'amour que Dieu nous offre. Un amour qui, quelque part, il faut y croire à cet amour-là. Quand Dieu nous dit, je t'ai pardonné, il faut y croire. Il faut arrêter toujours de remettre en question, de dire, ah, je suis... Vraiment, on voit au travers de cette parabole un amour qui attend pas une repentance préliminaire. Vraiment, il y a cette acceptation du Père pour ce fils cadet qui est incroyable. Et regardez ce que le Père fait. Il le restaure dans son statut de fils. Il l'habille avec une robe. Il lui donne une bague, qui est quand même à l'époque le sceau de l'autorité paternelle. C'était comme ça qu'on signait, si vous préférez. Il lui met des sandales. Son enfant n'est pas un va-nu-pied. Il a dû venir, s'il lui met des sandales, ce qu'il n'en avait pas. Il était dans une telle misère, il est sans doute venu habillé avec des haillons, il sentait peut-être encore le cochon, et son père l'a pris dans ses bras, et il lui a mis des chaussures, tout ça, mais c'est absolument incroyable. Son enfant n'est pas un va-nu-pied, c'est son fils. Et il l'appelle mon fils. C'est quand même incroyable. Et je pense que le fils a commencé à avoir un autre regard sur son père à ce moment-là. Le regard du fils a changé envers son père. Le fils qui a vécu des années avec ce père, le découvre maintenant comme un père qui aime son fils et qui le veut avec lui. Son père n'est plus un pourvoyeur d'héritage d'argent ou de fonds, mais il a une vraie relation avec son père, une relation d'amour. Et juste une petite chose, pour qu'une relation d'amour soit partagée, il faut que les deux fassent un pas. Si le fils n'était jamais revenu vers son père, eh ben il n'aurait jamais pu recevoir cet amour. La repentance implique aussi un pas de notre part. Il y a ce retour du fils cadet, et après le père peut l'accepter pleinement. Mais si le fils n'était pas revenu, il n'y aura pas pu avoir repentance. Donc voilà un peu ce premier fils qu'on connaît mieux que le deuxième. Et le deuxième, il est fâché. Ça commence comme ça, parce qu'il entend des bruits quand il rentre des champs. Et le père sort aussi à la rencontre de ce fils. Comme il est sorti à la rencontre du premier fils, parce qu'il revenait, le père sort à la rencontre du fils aîné qui est en colère. Vous savez, quand on est en colère, Dieu vient toujours à notre rencontre, à la rencontre de nos colères. Il prend l'initiative. Alors, ce second fils, ce fils aîné, à la fin de la parabole, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas la fin de son parcours, il n'est pas révélé. Est-ce qu'il va recevoir les paroles de son père, ce qu'il a dit ? Quelle sera l'histoire de cette famille ? On ne sait pas. Jésus laisse la question ouverte comme un appel aux pharisiens et aux scribes qui ressemblent tant à ce fils aîné. Il nous révèle que le fils resté à la maison est tout aussi éloigné du père que le fils qui est parti dilapider toute la fortune au loin dans un pays étranger. Comme je vous l'ai dit, on peut être perdu hors de la maison, loin de Dieu. Comment être perdu dans la maison? On peut transposer aujourd'hui, hein. On peut être perdu hors de l'église, loin de l'église, mais même dans l'église, on peut être perdu et ne pas être en relation avec Dieu. Alors, le fils aîné est décrit en premier comme travailleur. Travail. D'ailleurs, il revenait des champs, hein, si jamais si vous voyez qu'il bossait bien. Mais si on réfléchit un peu plus, on creuse un peu en profondeur dans ce fils qui a une apparence de tout pour plaire, quelque part. Il travaille, il est obéissant, il n'est jamais désobéi, il dit à son père. Mais derrière cette apparente, qualité, se cache une attitude de cœur déplorable. Il va parler de son travail en le comparant à celui d'un esclave. Il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers. Et le mot là, en grec, c'est le mot qu'on utilise pour les esclaves qui travaillent dans les maisons pour leur maître. Donc il a un rapport à son père étonnant. D'ailleurs, c'est un terme beaucoup plus fort que celui de salarié que le fils cadet avait utilisé. Traite-moi comme un de tes salariés. Encore le fils, il n'a pas dit traite-moi comme un de tes esclaves, mais traite-moi comme un de tes salariés, le fils cadet. Tandis que le fils aîné, il compare son travail comme presque à celui d'un esclave. Et puis, déjà, la colère du fils aîné, elle est quand même pas normale, puisqu'elle se fonde, à la fois sur le fait que son travail et son obéissance ne lui ont pas rapporté le bienfait qu'il attendait. Il dit, mais moi, je travaille pour toi, tout ça. Et sur le fait que son frère, le fils prodigue, est au bénéfice d'une bienveillance imméritée. C'est pas normal. Ce vaurien qui a dilapidé tout ton argent. Donc, quelque part, il n'est pas en relation d'amour avec son père, si on réfléchit bien. Il est en attente, il est en quête de récompense, quelque part. Il comprend d'ailleurs même pas ce qui se passe avec son frère et il comprend pas la grâce. Il dit, attends, moi j'ai travaillé. Il y a une colère qui est là. Il se plaint, par exemple, que son père ne lui a jamais offert même un chevreau pour faire la fête avec ses copains. Alors, notez quand même l'égocentrisme du reproche, hein, parce que il dit pas qu'il aurait voulu faire la fête avec son père. Non, il voulait un chevreau pour faire la fête avec ses copains. Et c'est vrai que si son frère a eu la franchise, peut-être d'utiliser ouvertement son père comme une vache à lait, hein, parce qu'il a. Mais le fils dans son cœur, il a la même attitude finalement. Derrière son travail assidu, son obéissance scrupuleuse, il est tout aussi éloigné de l'amour de son père que son frère quand il est parti. Alors c'est vrai que je vous amène ça à une réflexion aussi pour l'église. Souvent, on est choqué par les enfants qui claquent la porte de l'église ou qui tournent mal, comme on dit. Mais alors, que penser des enfants qui s'adaptent à leur milieu ? Qui semblent mener une vie réglée sur des bons principes, qui sont là et qui font comme tout le monde. Vous savez, hein, moi j'en ai connu, hein, des jeunes qui lèvent les bras à la louange et puis ils font autre chose, hein, le reste du temps. Rien à voir avec l'évangile, hein. On s'adapte tellement bien à notre milieu. Et je dirais pas seulement les jeunes, mais je peux parler des chrétiens, tout simplement. Qui fondent notre vie spirituelle sur ce qu'on fait bien, nos prières, notre piété, tout ça. Donc j'ai droit à ça, finalement, aussi, avec Dieu. Et puis, il y a une relation qui est faussée avec notre Père Céleste. Et réfléchissons un peu à combien il y a de fils aînés dans nos églises qui connaissent pas leur Père. Alors, je vous amène ça pour vous amener à dire, mais il faut pas trop juger à l'apparence. On juge très vite à l'apparence, vous savez. C'est humain, hein, moi le premier. Hein, combien de fois j'ai jugé un peu rapidement Et plus j'avance avec Dieu, plus j'apprends à avoir un autre regard. Vous savez, c'est comme dans cette histoire, souvent, le fils cadet, celui qui est parti, il est souvent plus mal vu que le deuxième. Le fils aîné, on l'oublie souvent. Alors, apprenons à pas trop juger. Et ce fils, je dis encore un dernier truc négatif sur ce fils aîné, parce qu'il faut quand même que je vous montre qu'il est pas si bien que ça, même s'il travaille bien, il est à la maison. Il dit, quand il parle de son frère, à son père, il dit « ton fils ». Il dit pas « mon frère », il dit « ton fils », qui a dévalisé tout, enfin, qui a dépensé tout ton bien, etc. Il pêche contre le premier commandement, quand même, d'aimer son père, enfin, et d'aimer son prochain. Son plus proche prochain, c'est son frère, quand même. Alors, comment réagit le père à tout cela ? Comme toujours, le Père revient à l'essentiel. Vous savez par quoi il commence? Il dit « Toi, mon enfant ». C'est plus affectueux que « fils » encore. Il dit « Toi, mon enfant ». C'est l'expression quelque part d'un amour profond pour lui. Et il lui dit « Tu es toujours avec moi ». La communion prime sur le travail, sur l'obéissance, aux ordres. C'est un appel du Père à sortir de cette attitude de mercenaire qu'a le fils aîné pour vivre dans sa communion gratuitement avec son Père. Vous savez, le Père, il n'a pas rappelé les fautes au fils cadet parce qu'il ne semble pas intéressé par les œuvres. Dans les deux cas, ce sont les personnes elles-mêmes qui l'intéressent et pas ceux, leurs actes. Il lui dit encore, tout ce qui est à moi est à toi. Et vous savez, c'est pas une théorie. Parce que si on regarde bien dans l'histoire, l'héritage a été donné aussi au début. Il a été partagé en deux. Et le fils aîné, comme le fils cadet, a reçu sa part. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, le fils aîné reçoit une double part. Parce que c'est celui qui porte le nom, qui va continuer qui porte la suite de la descendance, et donc il a reçu sa part. Donc le fils aîné qui est en train de se plaindre parce qu'il a même pas un chevreau, alors que tout lui a été donné. Il le réalise même plus. Vous savez, on a tout en Dieu. Et très souvent on se plaint de ce qu'on n'a pas, des petites choses, alors que finalement, c'est des choses qu'on a déjà. Et enfin, le Père appelle son aîné à se réjouir de la rédemption et de la grâce. Des choses que ne comprenait pas le fils aîné. Et il l'appelle, regardez comme il le fait, quelle sensibilité il a aussi pour amener le fils aîné à changer de regard envers son frère. Alors que le frère aîné disait « ton fils », lui a balancé ça, le père lui dit « ton frère ». Regardez dans le texte, il dit « ton frère qui était mort est revenu à la vie, c'est aussi ton frère ». On ne peut pas avoir un regard d'amour sur nos frères si on n'a pas réellement reçu cet amour nous-mêmes. Et ce fils aîné, il avait besoin de découvrir cette relation d'amour avec son père pour pouvoir aimer son frère, sinon on ne l'aurait pas pu. Et il n'avait pas cet amour. Il était dans un fonctionnement, dans une attitude. Alors de même, nous recevons pleinement l'amour du Père, pouvoir aimer notre prochain. On peut pas aimer notre prochain si on n'a pas découvert cette relation profonde avec notre Père Céleste. Alors, je reviens à ma question du début. Je disais, ton Père est-il vraiment ton Père? Est-ce que l'amour fou de ton Père, il t'atteint? Amour, finalement, malgré ta totale indignité, comme dans le cas du fils cadet. Amour pour toi, même si tu t'éloignes, même si tu es loin de lui, cet amour, il est toujours là si tu reviens à lui. Cet amour n'est pas condamnant. Il ne va pas revenir sur ce que tu as fait. Il est là pour t'accueillir. Mais c'est aussi un amour pour toi qui n'est pas conditionné par ton travail, par tes œuvres, comme le fils aîné. C'est pas parce que tu obéis bien à mes ordres que je t'aime. C'est pas un amour conditionné. C'est un amour qui dépasse cela. Et surtout un amour qui nous conduit à aimer notre prochain, notre frère, celui qui est à côté de nous. Amen.